Chronique Action au Conseil de la MRC avec la préfète du Témiscamingue qui est au bout du fil, Claire Bolduc. Bonjour Claire.
Bonjour Simon, bonjour tout le monde.
Il y avait donc réunion au sommet hier et de ça en est sorti plusieurs beaux projets, plusieurs belles annonces, notamment l'adoption d'un mémoire sur la forêt.
Oui, alors la réunion du Conseil, c'est toujours un moment intéressant pour se retrouver entre élus et pour regarder dans quelle direction, quelles sont les priorités d'action, dans quelle direction on va orienter le développement de la MRC. Mmh. C'est une réflexion de territoire. On ne réfléchit pas municipalité par municipalité, mais globalement pour l'ensemble du Témiscamingue. Alors, évidemment, hier, c'est une consultation pour l'avenir de la forêt qui a été lancée par le gouvernement en novembre dernier. Et la consultation fait un arrêt ici dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue le 26 mars prochain. On trouvait important de déposer un mémoire qui nous concerne, qui touche notre façon de vivre avec la forêt. Le mémoire qui a été déposé fait état de 5 recommandations. Une des plus importantes de ces recommandations-là porte sur harmoniser le territoire des tables GIR, de gestion intégrée des ressources, avec les territoires de MRC. Pour information, dans notre MRC, il y a une table GIR qui va toucher essentiellement le sud du territoire, à partir de Saint-Bruno-de-Guigues. Il y a des municipalités, Rimini par exemple, qui est coupée en deux parce qu'elle a une partie de son territoire qui est gérée ici au Témiscamingue, une partie de son territoire qui est gérée à partir de Rouyn-Noranda. Okay. Il y a des municipalités qui sont complètement dans le giron de la table de gestion intégrée des ressources de Rouyn-Noranda. Ça tient pas la route. Ça ne tient pas non plus sur la capacité de s'organiser sur le territoire. Alors, une des premières recommandations qu'on fait, c'est d'harmoniser ce fonctionnement-là avec le découpage des MRC. C'est important pour nous. On a une forêt, on le sait, on a une forêt mixte, on a une très belle forêt ici. Et dans le contexte, on veut pouvoir travailler de façon globale sur le territoire. Une autre des recommandations, c'était vraiment, ça touchait tout l'entretien des chemins forestiers, le réseau routier forestier, ce qu'on appelle les chemins multi-usages. Mm-hmm. Alors, c'est de pouvoir permettre d'avoir un financement approprié pour entretenir ces chemins-là, qui, d'une part, permettent l'accès à la forêt pour les entreprises, mais d'autre part, permettent aussi l'accès à la forêt pour la population, pour profiter de cet espace-là, pour nos activités de plein air, pour nos activités de loisirs. Alors, dans ce contexte-là, il y avait d'autres recommandations également, 3 autres recommandations sur la mise en place des aires protégées, sur le droit de réglementer les coupes forestières que les municipalités locales ont, de le maintenir, et les subventions à l'aménagement forestier en forêt privée. Bref, c'est un mémoire important pour nous et on sera le 26 mars prochain à la consultation, à la rencontre de consultation.
On parle aussi de cette résolution que vous avez entérinée sur l'entente sectorielle, une entente sectorielle qui est régionale.
Oui, tout à fait. Les ententes sectorielles de développement, elles impliquent généralement les 5 MRC de la région. On les soutient d'une part par le biais d'un fonds, du Fonds Région Ruralité, le volet 1, le volet régional, et d'autre part par les fonds disponibles dans des organismes ou ministères qui sont sectoriels, qui sont rattachés à un domaine. Dans le contexte, c'est avec le CISAC que cette entente-là a été discutée et négociée. Elle va porter sur le développement social et communautaire de façon particulière sur tous les aspects qui vont permettre d'agir sur pour réduire les inégalités sociales en santé sur notre territoire et dans la région. Par exemple, financer des initiatives en matière de logement social, des initiatives en matière de sécurité alimentaire, des initiatives qui vont faciliter, favoriser le développement et le soutien des services de proximité, des mesures qui favorisent les saines habitudes de vie. Alors, cette entente sectorielle de développement-là, elle est signée, elle rend disponible des sommes qui sont importantes, elle permet que les gens puissent déposer des projets. Bien entendu, il y a des appels de projets qui sont organisés et notre responsabilité, c'est d'être associé, de promouvoir l'entente sectorielle, de promouvoir les facilités qu'elle propose et de faire en sorte que nos organismes en bénéficient. Alors, on était très heureux hier de pouvoir signer cette entente sectorielle-là. Il y en a déjà, c'est la quatrième entente sectorielle. Il y en a une en concertation, en attractivité, il y en a une en développement agroalimentaire et maintenant, on en a une en développement social.
C'est ce qui est positif de la signature de ces ententes sectorielles-là et surtout le fait que ce soit régional, c'est que tout le monde s'entend sur les mêmes conclusions dans un même secteur. Ça veut dire qu'on travaille en harmonie présentement.
Actuellement, puis c'est important de le mentionner, dans le contexte de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a une belle cohésion. Ça, on peut pas dire que c'est arrivé souvent là, pour l'avoir entendu et avoir vécu tous les déchirements ou toutes les discussions parfois difficiles. Mais dans le contexte, c'est une belle, il y a une belle cohésion en ce moment. Et les ententes sectorielles traduisent bien cette cohésion-là. Les ententes sectorielles, faut savoir qu'il faut que toutes les parties prenantes, ça peut pas être 3/5, ça peut pas être 4/5, il faut que ce soit toutes les parties prenantes qui soient d'accord et qui soient prêtes à y travailler. Alors, dans ce contexte-là, ça prend une belle cohésion. La cohésion, c'est souvent affaire de personnes avant l'affaire d'organisation, mais en ce moment, tant les personnes que les organisations ont trouvé les mécanismes qui permettent de vraiment fonctionner de concert. Alors, ça fait vraiment, vraiment une belle cohésion dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
Et on pouvait pas terminer ce bel entretien ce matin sans parler du financement qui a été accordé à trois beaux projets.
Bien, on avait l'appel de projet. Nous, on a le Fonds Région Ruralité, le volet 2. Les appels de projet, il y en a trois par année. Un en début d'année, un qui va se terminer en avril et un dernier en septembre, où on demande aux municipalités, aux organismes, aux organisations qui font la vitalité de notre territoire, s'ils ont des projets, on offre de les soutenir financièrement si le projet correspond et cadre avec les règles de fonctionnement du fonds. Dans le contexte, hier, on a approuvé trois projets. Je vais mentionner celui qui m'a vraiment touché au cœur, c'est la réfection de la Maison des jeunes à Témiscamingue. Les Maisons des jeunes, elles font un travail important de soutien dans les communautés, d'animation, d'orientation, d'offrir des activités aux jeunes. Alors, la Maison des jeunes de Témiscamingue fait un important travail de mise à jour, de rénovation et d'amélioration de ses installations. C'est un projet de plus de 400 000 $ et la MRC offre la somme maximale, soit 30 000 $. On va également soutenir la municipalité de Notre-Dame-du-Nord pour un parc, le parc de la première rue qui se trouve un peu derrière l'aréna à Notre-Dame-du-Nord. Donc, on offre une somme de 23 000 $ et descente de bateau à la pointe du Pain Rouge d'Anglier. C'est important, les descentes à bateau. C'est important parce que c'est sécuritaire quand on a une descente de bateau autorisée et bien identifiée. Et c'est aussi un bon moyen de sensibiliser les gens aussi pour lavage de bateau avant de traverser d'un lac à l'autre pour éviter la contamination des espèces aquatiques envahissantes. Alors, on a accordé également un budget de 20 000 $ pour la descente de bateau de la pointe du Pain Rouge d'Anglier. On est conscient qu'il y a des projets, puis là je rappelle que les projets ne peuvent pas être phase 1 d'un même projet, phase 2, phase 3, c'est une fois dans un projet. Et on ne peut pas soutenir la récurrence. Alors ça aussi c'est important, on ne supporte pas ou on ne finance pas la mission de base ou la récurrence des actions. Notre levier doit servir vraiment à soutenir des projets et à faire avancer, évoluer les organismes et les municipalités. Alors, c'est toujours intéressant de lire la créativité que les organisations et les municipalités mettent de l'avant pour améliorer la qualité de vie.
C'est effectivement tout à leur honneur. Merci beaucoup, Claire. Toujours un plaisir d'avoir l'information relatée lors de ces séances de conseils de maires et mairesse de la région.
Merci. Et je vais terminer en mentionnant simplement que On a accordé hier un soutien, on a adopté une résolution pour soutenir la coopération intermunicipale. C'est un concept qui fait son chemin à travers nos municipalités, à travers le travail de nos municipalités. Et hier, une fois de plus, on a signifié au gouvernement que les sommes qui servent à la coopération intermunicipale sont importantes et que le gouvernement doit remettre des sommes en jeu pour faciliter justement cette coopération-là. Alors, je termine là-dessus en disant, non seulement c'est une question d'argent, mais c'est surtout une question de principe pour notre monde. La coopération, ça s'inscrit dans nos façons de faire depuis plusieurs années et il faut bien la soutenir. Alors, on est très content d'avoir lancé cette résolution-là pour dire à quel point on en a besoin.
Merci beaucoup, Claire Bolduc. Toujours un plaisir de vous accueillir à l'émission.
Merci. Bonne fin de journée, tout le monde. Et puis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Il fait soleil, enfin.